Le soleil prend des forces et les journées se rallongent. On a gagné presque 2 heures depuis le début de l'année. Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Sauter? Après, la semaine passée,
nous avons pensé que c'est à cause des vêtements.
Des vêtements de Robert.
Ah.
C'est d'autres choses. Je ne sais pas si c'est ça ici, là, mais c'est vraiment étonnant, hein? On peut essayer de changer le micro. On dirait que là, ça ne le fait plus. Bon, je vais le tenir comme ça, Jonathan. C'est beau. Ça va être étonnant, mais c'est comme ça. Bon. Nous sommes toujours dans la série sur la résolution des conflits quotidiens. Et est-ce que vous vous rappelez des 5 R? La première R, c'est quoi?
Rendre gloire à Dieu.
Rendre gloire à Dieu. Et vous êtes rendu bon? Hey, c'est bon ça. La deuxième R, c'est?
Retirer
la poutre de son œil. Est-ce que c'est naturel de faire ça? Non. La naturelle, c'est de tout de suite accuser l'autre personne. Mais le Seigneur Jésus nous enseigne à, premièrement, s'examiner nous-mêmes. C'est révolutionnaire, ça. C'est vraiment révolutionnaire. Puis, avez-vous commencé à l'appliquer? Oui? C'est bon? Dans le couple, au travail, dans le voisinage? Parce que c'est une chose de savoir, hein? Mais c'est une autre chose de savoir en pratique. C'est comme quand on fait des études pour être, plombier ou électricien, on étudie la partie théorique, mais sur le terrain, là, c'est d'autres choses. Hein? Moi, quand j'ai commencé ma pratique de médecin, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de connaissances là, mais que j'apprenais beaucoup de choses en travaillant. L'expérience rentrait au poste. Fait que c'est ça. Mais au moins, si on a... les notions, si on a les principes en tête, ça va nous aider lorsque le conflit arrive. Troisième, relâcher la dette que l'autre vous doit, c'est de pardonner de notre cœur à l'autre personne. Et il y a deux phases à ça, on va revenir tantôt. Relâcher la dette, redresser avec douceur. On a vu ça, hein? Redresser, on peut redresser avec toutes sortes de faux motifs. Dans le but d'avoir raison, dans le but de montrer à l'autre sa stupidité ou sa naïveté ou peu importe, dans le but de se justifier, dans le but de punir, c'est tout des faux motifs. Jésus dit, si ton frère pêche contre toi, va le reprendre, et si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Donc, le but de redresser, c'est de gagner le frère, c'est de restaurer la relation. Puis il y a une phrase dans ce cours-là, on ne l'a pas répété souvent cette fois-ci, mais c'est que cette phrase-là est vraiment bonne. Notre relation est plus importante pour moi que le conflit qui nous sépare. Et est-ce que ça a été le cas avec Dieu, ça? Oui, ça a été le cas. Imaginez-vous, nous, les êtres humains, comme la Bible nous dit, nous étions ennemis, nous étions en opposition avec Dieu. Nous l'avions rejeté. Même plusieurs entre nous avaient le poing fermé comme ça contre Dieu. Et le conflit énorme entre nous et Dieu. Mais comme on a vu avec l'image que je vous ai montrée, Jésus regarde par-dessus les offenses au cœur, hein? Au cœur de la personne. Puis je vous avoue que ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour nous, sinon impossible, sans l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais la relation est plus importante que le conflit qui nous sépare. Si vous vous rappelez de cette phrase-là, ça va vous aider dans votre couple, dans vos relations. Redresser avec douceur dans le but de restaurer la relation et finalement, rechercher la réconciliation, puis je pense que c'est dans cette optique-là que Robert a parlé la semaine passée, hein? Vaincre le mal par le bien. En faisant le bien, on recherche la réconciliation dans la relation. On cherche à faire du bien à nos ennemis. Et puis, ça contribue à rétablir la relation avec l'autre. Bon, ce matin, on va revenir avec relâcher la dette, un autre aspect de ça. Donc, remettre la dette. La première étape, on a dit, c'était dans le cœur. Ça se passait dans le cœur. Jésus dit qu'il faut pardonner dans notre cœur à l'autre personne qui nous a offensés. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'amertume s'installe. Et quand on refuse de pardonner, il y a des conséquences à ça. Le refus de pardonner amène des conséquences spirituelles, émotionnelles et physiques dans notre vie. Ça, on a vu ça, les conséquences du refus de pardonner. Mais pardonner, première étape, c'est dans le cœur. Et pour pouvoir pardonner, comme j'ai été pardonné, il faut que je relâche la dette. La notion de dette est primordiale et centrale à tout conflit, frères et sœurs. Dès que quelqu'un vous offense, que ce soit réel ou imaginaire, dans votre cœur, cette personne-là a encouru une dette. Et cette notion-là, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus dans la parabole, puis on va regarder encore cette parabole-là ce matin. Et je dois relâcher cette dette-là. Comment? En faisant exactement comme Dieu a fait. Comment Dieu a trouvé, quel moyen Dieu a trouvé pour nous pardonner? Le seul moyen que Dieu a trouvé pour te pardonner, c'est marqué dans Colossiens, c'est qu'il a cloué la dette que tu avais contre lui à la croix. C'est comme ça, Jésus a payé pour cette dette-là. Vas-tu trouver une meilleure façon que Dieu pour pardonner à ton frère, à ta sœur, à ta conjointe, à ton conjoint? Vas-tu trouver une meilleure façon que la façon de Dieu à pardonner? Non, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas de meilleure. Donc, la dette que la personne a envers toi, tu vas la prendre et tu vas l'amener à la croix et tu vas la clouer à la croix et tu vas dire « Jésus a payé pour ça ». Donc, je relâche la dette. Jésus paye pour ce que cette personne-là m'a fait faire. Je n'ai plus à m'attendre à ce qu'elle paye pour ça. Et ça te libère. Et dans ton cœur, c'est ça qui va t'amener à pouvoir réellement pardonner. Alors, souvent, la notion de pardon est floue dans notre tête. Pardonner, c'est quoi? Bien, souvent, les gens vont dire, on oublie. Non, le pardon, ce n'est pas oublier. Lorsque la personne demande pardon et qu'on pardonne, là, on doit oublier. Oui, et ça, c'est la deuxième étape, c'est l'acte de pardonner, ce qui signifie qu'on le verbalise. Oui, je te pardonne. On le verbalise, c'est comme une transaction. La personne dit, garde, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fait ça, puis ça t'a blessé. OK, je te pardonne. Mais le pardon était déjà là dans le cœur. Comprenez? Donc, mais lorsqu'elle fait ça, bien, je m'engage à renoncer à ramener ça sur le tapis. Je renonce à ramener ça à ma mémoire et à la laisser influencer notre relation, pareil comme Dieu. Tout ce qu'on voit dans le cours est basé sur l'Évangile. Tout ce qu'on fait dans ce cours-là, c'est de regarder à ce que Dieu a fait dans l'Évangile à travers Jésus-Christ pour nous, et on l'applique. L'histoire de l'Évangile, c'est une histoire de réconciliation. Ça, je martèle ça aussi. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une histoire de réconciliation. Donc, on a vu ça. Maintenant, ce que j'aimerais regarder, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de regarder ce matin, c'est les obstacles à pardonner du cœur. Et ici, la phrase sommaire, je vous donne le punch déjà au début. Le Seigneur désire que nous pardonnions dans notre cœur toute offense qui nous est faite. Ce pardon qu'on donne est celui qu'on reçoit de Dieu. Mais il y a des obstacles à recevoir ce pardon, dont l'orgueil, l'amertume et la honte. Tout pardon véritable vient de Dieu. Puisque, comme on a vu, selon le Seigneur Jésus, l'offenseur engendre une dette envers la personne qui l'a offensée. Il faut que quelqu'un paye cette dette pour pouvoir la relâcher. Sinon, ce n'est pas un véritable pardon. mais une tentative infructueuse d'oublier ou de passer dessus en le minimisant. Est-ce que c'est ce que les gens, en général, font? Ils tentent de minimiser, tentent d'oublier. Mais la preuve que ce n'est pas un pardon réel, c'est que lorsque la personne nous offense de nouveau, voilà que la dette de la première offense refait surface. Pas vrai? C'est vrai. On ne peut aucunement pardonner adéquatement, sinon en allant à la croix et en clouant l'offense de notre frère là où Jésus a payé la pénalité pour cette offense, comme on disait tout à l'heure. Le pardon vient alors habiter notre cœur, qui tire son origine à la croix. La parole nous exhorte à pardonner comment? Comme nous avons été pardonnés. À faire grâce comme il nous a été fait. Et ça, on l'a vu dans Colossiens. Je vais vous relire le verset dans Colossiens 2, 13, 14. Colossiens 2, 13, 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Wow! En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Prions. Ce matin, encore une fois, Père, nous nous tournons vers toi. Tu es notre soleil, tu es notre bouclier. Tu es la source de vérité, de joie et de paix. Source d'amour, de joie, de bonté, de fidélité. Et Seigneur, oui, on se tourne vers toi. C'est vers toi qu'on crie, comme on a chanté, la nuit et le jour. On a besoin de toi, Seigneur. On reconnaît ce matin notre besoin de toi. Viens par ton Saint-Esprit nous éclairer par tes saintes Écritures. Viens, Saint-Esprit, prendre le contrôle de cette rencontre. Parle à nos cœurs. Seigneur, éclaire-nous et ramène-nous vers toi et vers la vie. Pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, le seul vrai pardon qu'on peut donner est le pardon qu'on reçoit de Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et si je n'ai pas expérimenté le pardon de Dieu à mon égard, serais-je alors en mesure de le vivre dans mon cœur et de l'accorder à mon offenseur, le moment venu? Si moi-même, je n'ai jamais été au pied de la croix pour y reconnaître ma culpabilité et recevoir de Dieu le pardon en y voyant mes péchés cloués sur l'agneau de Dieu, serais-je en mesure d'y aller avec les péchés des autres? Jamais. Jamais. Comme on a vu, il y a deux étapes, ça on en a parlé. Le pardon dans le cœur et accorder le pardon formellement. Ici, on parle de pardonner dans le cœur. Alors, quels sont les obstacles qui peuvent m'empêcher de pardonner? Bien, c'est que je ne reçois pas le pardon de Dieu pour moi, pour pouvoir le donner ensuite aux autres. Je ne l'ai pas vraiment expérimenté. Qu'est-ce qui m'empêche d'expérimenter ce pardon-là? Le premier obstacle, c'est l'orgueil. J'aimerais retourner dans Matthieu 18 avec vous. Matthieu 18, c'est la parabole des deux serviteurs qu'on a regardé à deux ou trois reprises déjà. Et cette parabole-là, elle est riche en enseignement. Vraiment riche. Et j'ai été foudroyé cette semaine de réaliser quelque chose que je n'avais jamais vu dans la parabole. Et c'est ça la parole de Dieu, hein? C'est merveilleux. Nous y retrouvons en Matthieu 18, au verset 21, en réponse à la question de Pierre au Seigneur Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? » Alors, le Seigneur Jésus raconte l'histoire de deux serviteurs. Il y en a un qui doit une somme phénoménale au roi, et le roi lui pardonne toute sa dette. Mais dès qu'il ressort de la cour du roi, il croise un de ses compagnons de service qui lui doit une petite somme, quelques centaines de dollars. Il refuse de lui pardonner cette dette et le fait jeter en prison. Alors le roi se choque en apprenant ça et met cet homme-là en prison. Comment cet homme, je vous pose la question, comment cet homme à qui une grâce incroyable a été faite a pu agir ainsi avec une telle dureté de cœur? Pourquoi a-t-il refusé de faire grâce alors que le roi lui avait fait grâce? Et c'est ça qui m'est venu à l'esprit cette semaine en réfléchissant. J'ai dit, je ne comprends pas comment ça se fait. Cet homme-là, à qui une grâce incroyable a été faite, comment a pu-t-il manquer de grâce envers son compagnon? Bien, la réponse se trouve dans la parabole. Regardez avec moi. Le Seigneur nous donne un indice au verset 23. C'est pourquoi, dit Jésus, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, donc il révise ses comptes, et là il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Les colonnes ne s'additionnent pas. Là. Alors, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. On lui amena. Le serviteur n'est pas venu de lui-même pour avouer sa situation à son maître. On l'a amené au roi. Voyez-vous? Il n'est jamais allé de son plein gré là, au roi pour lui parler de sa situation, dire... Écoute, mon Seigneur, votre Majesté, ça va pas tellement bien dans mon ministère des ressources naturelles. On a un problème de revenus. On n'a plus la main d'œuvre. On manque de main d'œuvre pour aller chercher les ressources. Puis ça va mal. On commence à s'endetter, etc. Non, jamais il est allé voir le roi. Il a attendu que la dette soit insurmontable. Et puis même là, il n'est pas allé. On l'a amené au roi. Voyez-vous? Il n'est pas allé de sa volonté voir le roi. Il ne serait jamais peut-être allé si on ne lui avait pas obligé. En fait, pourquoi a-t-il attendu que la situation devienne complètement hors de contrôle? Ça, c'est l'autre question que je me suis posée. Pourquoi ne pas, au début, lorsque la dette était petite, comme j'ai dit, aller voir son maître pour lui avouer et demander de l'aide? Avait-il peur? Peut-être. Peur de quoi? Ça, c'est l'autre question que je me suis posée. Peur de quoi? Peur d'un maître dur, exigeant? Mais dans l'histoire, le roi, il semble être plutôt un type généreux. Un type qui pardonne facilement. Alors, il avait peur de quoi, selon vous? De perdre la face. Et pourquoi on peut même être pas mal certain que c'est ça qui l'a empêché d'aller vers le maître? C'est que la situation que nous est présentée semble nous indiquer que c'est ça qui habite son cœur. Il ne voulait pas avouer qu'il avait échoué et que la dette était rendue énorme. Qu'est-ce qu'il dit au maître? Regardez au verset 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et quoi? Pardonne ma dette. » Non. « Je paierai tout. » « Oh, je paierai tout. » Merci, William, c'est bon ça. C'est optimiste. C'est optimiste pour le moins de... C'est le moins qu'on puisse dire. C'est optimiste. Mais le roi, lui, il est ému de compassion devant ce serviteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne toute la dette. Wow! Il pardonne toute la dette. C'est incroyable. Mais le type, lui, il n'avait pas demandé ça. Il avait demandé la patience, puis il dit, je vais te remettre l'argent. Il demande non pas de pardonner la dette, mais de ne pas le punir tout de suite. N'est-ce pas? C'est ça l'affaire. C'est ça. Le roi, ému de compassion, lui pardonne toute sa dette, mais quelle pensée résidait au fond du cœur de ce serviteur? Je suis capable de payer. Je vais encore lui montrer que je suis quelqu'un fort et capable. Comment expliquer autrement son attitude en sortant de la cour lorsqu'il croise l'autre serviteur qui lui doit quelques centaines de dollars et qu'il le prend par le cou puis paye-moi, paye-moi? On ne peut pas l'expliquer autrement. Qu'est-ce que lui, il s'attendait encore à pouvoir prouver au roi qu'il était capable de payer sa dette? C'est la seule façon qu'on peut comprendre ça. Il avait l'intention de prouver qu'il serait capable de rembourser le roi pour s'exonorer et sauver son honneur. Mais il acceptait le pardon du roi, vous dites, oui, pour éviter les conséquences. Mais il n'a jamais reçu ce pardon dans son cœur, puisque l'orgueil lui faisait obstacle. Et c'est ça qu'on parle ce matin. Le premier obstacle à vivre, à expérimenter le pardon de Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne pourras pas le donner non plus. Combien cette parabole révèle le cœur humain de façon percutante, n'est-ce pas? Se pourrait-il, cher ami, que ça te ressemble un peu? Que ça me ressemble un peu? Qu'on ressemble à ce serviteur? On t'a montré par les versets de la Bible que tu étais pécheur, que tu avais une dette énorme envers Dieu. Tu as demandé à Dieu, le roi, de pardonner cette dette, mais au fond de toi, tu n'as jamais compris à quel point tu étais pécheur. Tu as reçu le pardon de Dieu parce que tu voyais que tu étais bien obligé pour éviter les conséquences. Mais est-ce possible que tu croyais que cela effaçait juste tes mauvais coups du passé et qu'au fond de toi-même, tu n'étais pas une si mauvaise personne que ça? Tes péchés du passé pardonnés, tu t'es engagé à vivre une vie qui allait maintenant démontrer à Dieu et peut-être aux autres aussi que tu étais finalement une bonne personne. Comme si tu avais une chance de te racheter. Se peut-il que tu n'as donc jamais réellement reçu la grâce de Dieu comme ce serviteur? Il a été fait une grâce incroyable, mais il ne l'a jamais reçu dans son cœur. Tout comme ce serviteur, le pardon de Dieu t'a permis d'échapper aux conséquences de tes fautes, mais t'a fourni également l'occasion, une deuxième chance, de prouver que dans le fond, tu es capable de vivre une bonne vie. Et même si ce n'était pas le cas au début de ta vie chrétienne, savez-vous que la Bible nous dit qu'on peut oublier de quoi on a été purifié? La Bible dit ça. On peut oublier de quoi on a été purifié. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on n'expérimente pas le pardon et qu'on s'en va vivre une bonne vie là, pour montrer aux autres que finalement, puis prouver à nous-mêmes puis à Dieu qu'on est capable de vivre une bonne vie de petit chrétien. Parce qu'on a oublié. Si ce n'est pas le cas, pourquoi donc as-tu tant de difficultés à pardonner aux gens autour de toi? C'est vraiment fatigant, ça. On parle ici du vrai pardon. Pas tenter d'oublier, de balayer ça en dessous du tapis ou de faire semblant, mais du vrai pardon. Du temps de Jésus, il y avait un groupe d'hommes religieux qui étaient durs envers les autres. Contrairement à Jésus, ces gens-là ne faisaient pas grâce aux gens autour d'eux. Ils étaient durs, pleins de jugement, sans miséricorde. Ils sont appelés les pharisiens. Vous allez tourner avec moi dans Luc 8 pour aller voir une autre parabole que Jésus raconte. Luc, chapitre 18, au verset 10. pardon, Luc 18, 18, c'est ça, pardon, Luc 18, verset 9 pour commencer. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Il travaillait pour les Romains, pour l'ennemi. Donc, ils montent tous les deux au temple pour prier. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien rentre chez lui sans avoir obtenu le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se voit juste. Il se compare au collecteur d'impôts qui, lui, est évidemment pécheur. Et il se trouve pas mal chic et beau à côté. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte à Dieu ses bons coups. Il fait le cas comme un avocat. Il présente les preuves à Dieu qu'il est finalement une bonne personne. Hein? C'est ça qu'il fait. Il est en train d'essayer de prouver à Dieu qu'il est une bonne personne. Je jeûne deux fois par semaine, etc. Je fais pas ci, je fais pas ça, je donne la dîme. Jésus dit, lui, là, il n'a jamais reçu le pardon de Dieu. L'autre, qui dans la vie faisait évidemment des choses mauvaises, mais savait qu'il faisait des choses mauvaises. Il les avoue, il s'humilie, et Jésus déclare, cet homme-là est descendu juste à sa maison. Wow! Vous comprenez pourquoi les pharisiens voulaient lapider Jésus, voulaient le tuer. Rappelons aussi le récit de la femme de mauvaise réputation, hein, qui vint laver les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux. Simon, le pharisien, chez qui le repas se tenait, s'étonna que Jésus se laisse toucher par cette femme. Mais quelle fut la réponse à Jésus? Il dit, « Simon, je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas apporté de l'eau pour me laver les pieds. Elle, elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi, tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Elle n'a pas arrêté de couvrir mes pieds de baisers. Toi, tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui à qui peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Celui à qui peu de choses, pardon, celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Les pharisiens se voyaient comme des justes, n'ayant pas besoin du pardon de Dieu ou ayant peu de choses à se faire pardonner. Et c'est pour cela qu'ils manifestaient aucun amour envers Jésus et aucun amour envers cette femme-là. Et probablement que s'il y avait un conflit, ils n'étaient pas en mesure de pardonner non plus, de faire grâce non plus. Dans Matthieu 23, 23, Jésus dit aux pharisiens qu'ils donnent la dîme sur les fines herbes et épices, mais qu'ils négligent la justice, la miséricorde et la fidélité. Ce terme « miséricorde » en grec « eleos » est le même qui est employé dans Éphésiens 2, 4, 5. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Dieu est riche, pensez-y, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts spirituellement par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Riche. Je veux dire, qui est plus juste que Dieu? Personne. Et pourtant, Dieu est riche en miséricorde, riche en bonté, grand amour. Mais là, l'homme, lui, il se tient devant Dieu, il essaie de se montrer juste devant Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? C'est le contraire. Aucune miséricorde, aucun amour, aucune bonté, aucune fidélité. Donc, le premier obstacle à ce que tu puisses être une personne qui pardonne facilement dans ton cœur, c'est quoi? C'est l'orgueil. Parce que l'orgueil te rend aveugle à tes propres fautes. Jésus n'arrête pas de dire aux pharisiens qui sont quoi? Aveugles. Il ne dit pas aux pharisiens, vous êtes aveugles, hein? Et tout comme le pharisien qui se tient devant Dieu, tu te tiens devant Dieu et tu le remercies d'être un chrétien, de ne pas ressembler aux gens de cette époque qui sont si pécheurs. Oh! Le Seigneur regarde au cœur de la personne. Le collecteur d'impôts était pécheur et le reconnaissait. Il en était profondément affligé. Le Seigneur dit que cet homme-là est rentré juste chez lui, aux yeux de Dieu. Mais le pharisien était pécheur, mais n'arrivait pas à le reconnaître et n'a pas été déclaré juste par Dieu en dépit de sa bonne vie. Si tu n'arrives pas à pardonner aux autres, et je dirais même facilement, comme celui à qui on a pardonné une grosse dette énorme, comment concevoir que tu aies réellement saisi et accueilli la grâce de Dieu pour toi? Et si tu te considères pas mal mieux que les autres, bien, ça t'empêche de recevoir la miséricorde, le pardon de Dieu dont nous avons besoin tous les jours. Tous les jours. L'Évangile est appelé l'Évangile de la grâce, n'est-ce pas? L'Évangile de la grâce de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de la grâce, du pardon que Dieu offre à ses créatures qui sont en défaut devant lui. Mais si tu ne reconnais pas ton besoin de pardon, cette bonne nouvelle n'est pas si bonne que ça, finalement. Ça devient plutôt une nouvelle, nécessaire, obligée, un peu comme si on t'annonçait tout à coup que tu devais, comme une grosse somme à Revenu Québec, tu reçois un courriel. Vous êtes en défaut de paiement, vous devez 10 000 $ à Revenu Québec. Oh, c'est grave ça, mais qu'il existe une façon de t'en défaire facilement, juste à remplir tel formulaire, et voilà, tu es exonéré de toutes les conséquences. Ouf, tu l'as échappé belle, hein? Et là, on te prend puis on te baptise. Tu es maintenant un bon... une bonne personne dans la société, tu payes tes impôts. On te baptise, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie parce que tu as accepté qu'il paye pour tes dettes. Fait qu'on te baptise, tu es maintenant chrétien. Un instant. C'est quoi que tu as reçu vraiment? Tu n'as guère pris conscience de ta dette, de ton état d'âme devant Dieu, de ton incapacité de vivre une vie réellement sainte et juste devant Dieu. Tu as reçu un pardon facile pour éviter le pire, mais tu n'as jamais réellement accueilli son pardon dans ton cœur. Et ce que tu n'as pas reçu, tu seras incapable de donner. Et si quelqu'un a le malheur de t'offenser, ce n'est pas la grâce qui va sortir. Non, au contraire, ton cœur sera hautain, critiqueur, dur envers les autres. Tu les jugeras facilement, même sur les apparences. Et cette attitude va repousser les gens autour de toi. Tu auras peu d'amis et les amitiés que tu auras ne seront pas très intimes. Tu te demanderas pourquoi tu te retrouves seul, isolé. Comment je sais tout ça? C'est parce que la parole de Dieu nous le dit et parce que mon cœur est comme ça. Oui, Jean-Claude? Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait au milieu du même, ce qu'on a tous, c'est le cœur, qui est le siège des pensées, de la volonté, des émotions et des sentiments. Lui, il rendait grâce au Seigneur, puis il n'était pas comme tout le monde, cet enfant-là, c'était un vrai bon gars.
Ouais.
Un vrai bon perdu, tu sais.
Ouais.
Un bon gars.
Oui.
Puis, les autres étaient tous condamnés, là, mais il révélait, il faisait état l'air de l'intention de son cœur se faisant.
Oui. Ouais. Merci Jean-Claude. Jean-Claude nous dit, juste pour répéter, que ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que le cœur va toujours se révéler. Ce qu'il y a à l'intérieur va se manifester vers l'extérieur. Donc, l'orgueil est l'obstacle numéro un à recevoir de tout notre cœur la grâce, le pardon de Dieu. Voici ce que Nancy Lee DeMoss écrit dans son volume « Choisir le pardon ». Pécheurs pardonnés, qui avons reçu la grâce de Dieu, nous annonçons aux pécheurs perdus de notre entourage qu'ils ont besoin de ce que nous avons reçu. Dieu peut vous pardonner, il peut vous purifier, il peut vous libérer, leur assurons-nous avec confiance. Mais ces personnes nous connaissent. Elles travaillent peut-être à côté de nous, nous coupent les cheveux, sont à table avec nous à midi, habitent dans notre rue. Et elles nous entendent. Elles entendent la façon dont nous parlons de notre ancien conjoint, de ce beau frère ou de cette belle sœur difficile, de cet artisan qui a raté le carrelage dans notre cuisine, de cet enseignant qui n'a pas donné un assez grand rôle à notre enfant dans la pièce de théâtre de l'école. Ce sont des exemples, mais il est vrai que notre message à propos de la bonne nouvelle du salut en Christ peut parfois sonner un peu faux. Ceux qui nous entourent ont du mal à comprendre ce qu'est la grâce, la miséricorde de Dieu. Si, n'hésitant pas à dire qu'il nous a pardonné, nous refusons de pardonner aux autres. Fin de citation. C'est en effet une des raisons principales qui est donnée pour les non-croyants, par les non-croyants, pour expliquer pourquoi ils se tiennent loin des églises. Ça, on l'a vu avec Étienne quand on a parlé de... le Québec, les valeurs, comment est-ce qu'on avait... Hein? Le Code Québec, hein? On avait vu ça. Une des raisons principales, sinon la raison principale pourquoi les gens ne s'approchent pas des églises, c'est qu'ils disent que les gens là-bas se voient comme meilleurs que les autres et sont en fait hypocrites. Ça, c'est, ils appliquent ça, est-ce que c'est vrai partout? Non, c'est pas vrai partout, mais il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Ils nous voient comme des pharisiens. Ça serait malheureux. J'espère que ce n'est pas notre cas. Des gens qui se pensent bonnes, meilleurs que les autres, des gens froids, distants, pas en mesure de socialiser avec les autres, se voyant justes et pas en besoin du pardon de Dieu. Quelle tragédie, si c'est comme ça que notre entourage nous voit, frères et sœurs. Mais Jésus, lui, socialisait avec les gens de mauvaise vie. C'est comme j'ai déjà donné l'exemple, mettons, on sait un jour là, que Jésus va venir, là, hein, si c'était possible, que Jésus revienne en personne sur la terre, puis on l'attend à telle date, telle heure, il va venir à Saint-Félicien. Là, on est tous dehors, ici, à local, on se réunit ici, parce que sûrement qu'il va arrêter ici, là. On est sur les marches de l'église, puis on l'attend avec impatience. Puis là, on voit son cortège passer, puis il passe tout droit, il s'en va directement au local des Hells. C'est ce que Jésus faisait. Exactement ce qu'il faisait dans son temps. Pourquoi il n'y a pas de chrétiens qui vont au local des Hells? Pourquoi? Bien, soit qu'on a peur, ou soit qu'on ne veut pas s'associer à ces gens-là, ou les deux. Et si on a peur, est-ce qu'il y a de l'amour dans la peur? Il n'y en a pas. Jean nous dit, l'amour chasse la peur. Si on désire que le Seigneur change le cœur des gens autour de nous, ça commence avec nous, frères et sœurs. Oh, que le Seigneur déverse sur nous un esprit de repentance et de prière. Combien nous voyons le cœur de Dieu dans cette parabole du serviteur qui avait une grosse dette et qu'il voit là, à genoux, en train de pleurer et qui, sans hésitation, pardonne la dette. La vérité, c'est que l'Évangile, nous en avons besoin à chaque jour. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont ils nous ont aimés, nous qui étions morts spirituellement. Morts spirituellement. Est-ce que tu t'es déjà vu mort spirituellement devant Dieu? Ou tu t'es vu comme pas pire, avec des péchés, oui, mais pas pire. Oui, péché à pardonner, OK, Jésus, merci, tu es mort sur la croix pour ces péchés-là. Merci, parfait, super, je vais le prendre, ton salut, merci beaucoup. Ou est-ce que tu es devenu devant Dieu et tu t'es dit, je suis fait à l'os. Si un jour je me présente devant le grand trône blanc, il voit dans mon cœur, il voit tout ce qu'il y a dans mon cœur, je suis fait à l'os. Je m'en vais juste une place, c'est en bas. C'est là que tu réalises la grandeur du pardon de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ. Mort spirituellement, tu es mort, ton chien est mort. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a aimés plus que notre péché. La relation pour lui était plus importante que le conflit qui nous séparait. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts spirituellement par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia! Il nous a rendus vivants. Est-ce que l'Église de Saint-Félicien, nous sommes des vivants? Nous sommes des vivants. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et si tu as reçu cette grâce, comment ne pas l'accorder autour de toi tous les jours? Premier obstacle. L'orgueil. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder un deuxième obstacle, c'est l'amertume. L'amertume dans le cœur. Ça sera pour la semaine prochaine. Mes frères et sœurs, prions. Oui, Seigneur Dieu. Souverain Créateur du ciel et de la terre, Roi de l'univers, Dieu trois fois saint, à qui revient toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Qui sommes-nous? qui sommes-nous pour nous présenter en ta sainte présence? Nous à qui tu as donné vie, nous à qui tu as donné toutes choses, et nous qui t'avions repoussé, nous qui avions bafoué ton amour, nous qui avions méprisé tes préceptes, tes principes. Nous qui étions morts spirituellement devant toi, coupables, dignes de ton juste jugement, pécheurs perdus. Mais tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'un grand amour. Ô Seigneur, pardonne notre orgueil. Pardonne mon orgueil. Pardonne notre dureté de cœur, Seigneur. Déverse sur nous un esprit de repentance et de prière. Fais-nous revivre, Seigneur, en ta présence, que la flamme de ton esprit ranime nos esprits. Oui, Saint-Esprit, ranime en nous. Renouvelle en nous un esprit bien disposé pour aimer, adorer, servir Jésus le Christ. Seigneur, on veut te ressembler. C'est notre plus grand bien, te ressembler, Jésus. On renonce, Seigneur, on renonce à essayer de vivre une vie de bon petit chrétien, à te prouver que on n'est pas pire. On renonce à ça. On veut que ton esprit vienne vivre ta vie en nous, Seigneur. Rien de moins, ta vie en nous. Que cette vie rayonne autour de nous. Par ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, relève-nous, relève cette Église, qu'elle puisse réellement s'attacher à ta mission, à toi. Faire de ton royaume sa préoccupation première. Seigneur, on se rend compte que nos cœurs sont durs, égoïstes, critiqueux. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Merci. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, ce Dieu glorieux. On veut te contempler, t'adorer. On aspire à vivre constamment en ta présence. On veut mener nos vies sous ton regard, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies, pour la gloire de Jésus. Amen.